6h54 minutes, c'est toujours un plaisir de jaser à Rage Against le matin avec Gabriel Giguère, qui est analyste politique pour l'Institut économique de Montréal. Il est au bout du fil. Gab, bon matin.
Hey, salut.
Hey Gab, j'ai entendu dire que t'es peut-être un fan de Linkin Park et surtout peut-être la chanson What I've Done qu'on vient d'entendre.
Ouais, ben j'aime beaucoup ces Emptiness Machine là, je la trouve magnifique. C'est un peu spécial parce que Linkin Park, t'écoutes ça puis t'as hâte de faire une entrevue, mais t'as aussi le goût d'aller t'entraîner au gym là. Fait que ça part des choses.
T'es-tu un gars de gym, Gab?
Ben écoutez là, j'ai pas des assez gros bras pour dire ça là, mais j'aime quand même ça y aller de temps en temps.
Question de garder la forme un peu là.
C'est ça.
Ok. Gabriel Giguère est avec nous et on aime beaucoup lui jaser ici à l'émission. Et on va parler de toute cette histoire là de barrières interprovinciales. Depuis que Donald Trump est au pouvoir, depuis les tarifs Donald Trump, on martèle l'importance de briser ces barrières-là entre les provinces. On martèle aussi l'idée d'avoir une économie qui est unie au Canada. Le tout a été lancé. On dirait qu'on a ouvert les valves un petit peu avec l'annonce de la Nouvelle-Écosse et le premier ministre de la Nouvelle-Écosse. Et moi, je me suis dit, Gab, que justement, ça allait faire des vagues. Mais il me semble que ça n'a pas fait assez de vagues que ça, ou en tout cas, pas autant d'impact que je pensais. Je me trompe-tu?
Bien, tu te trompes et tu te trompes pas. Okay. C'est-à-dire qu'il y a certaines provinces, où on s'est dit, Colin, l'approche de la Nouvelle-Écosse, de dire... commerçons tout de suite et harmonisons les mesures plus tard. Fait que reconnaissons la réglementation, que ce soit dans le camionnage, en finance, peu importe. Comme ça, ben, on s'assure de faciliter le commerce interprovincial. On reconnaît également la mobilité des travailleurs. Parce que, tu le sais, des fois, tu vas avoir par exemple, au Québec, si tu es un denturologiste qui a été formé en Colombie-Britannique, tu peux pas travailler au Québec sans formation d'appoint. Donc, on va avoir ces barrières-là à la mobilité des travailleurs, puis également tout ce qui est de l'accord de libre-échange canadien où on a, évidemment, de la réglementation qui est codifiée. Donc, tu peux pas, au Québec, t'acheter une bouteille de vin de la vallée d'Okanagan, par exemple, parce que ben il faut que ça passe par la SAQ. Donc, dans ce contexte-là, la Nouvelle-Écosse a déposé son projet de loi, puis ça fait des petits au niveau de l'Ontario. Hein. Doug Ford a dit, ben, c'est une bonne idée dans un contexte avec les tarifs douaniers américains, il y a des tensions commerciales. On va aller de l'avant également. La seule place, par contre, qu'il a adopté, c'est la Nouvelle-Écosse. Par contre, l'Ontario, l'île du Prince-Édouard, et la semaine dernière, bien que ce soit partiel, le Manitoba a également proposé une version de ces projets de loi-là. Donc, c'est intéressant. Mais maintenant, vous avez compris, j'ai nommé une liste de provinces. Il y en a une belle importante au Canada là qui est toujours pas là. C'est le Québec.
Ouais.
Québec, encore une fois, traîne de la patte. Puis c'est assez dommage parce que ça fait plusieurs mois là que c'est dans l'espace public et qu'on entend qu'il faut abaisser les barrières au commerce interprovincial. Mais malheureusement, on ne le voit pas.
Gab, tu as nommé plusieurs vaches sacrées du Québec avec la formation, la SAC, pas la SAC, parce que ça, c'est une autre histoire, la SAC, l'alcool, ça, c'est un autre fiasco qu'on parlera une autre fois. Je pense qu'il y a la langue française aussi là-dedans. T'sais, c'est quoi les vaches sacrées au Québec présentement qui font en sorte qu'on a le pied sur le frein pour abaisser nos barrières?
C'est sûr que tout ce qui est monopole d'État, quand on pense à Hydro-Québec, par exemple, à SAQ, c'est des vaches sacrées. La langue française aussi, mais la langue française, c'est intéressant. Parce que, évidemment, je serai pas celui ce matin qui va vous dire, écoutez, là, on est au Canada, on va adopter l'anglais. Impossible. Par contre, faut quand même dire que quand on fait la modélisation, dire quel serait l'impact, par exemple, du Québec si, où il ouvrait complètement ses barrières, là, il abaissait plutôt complètement ses barrières avec l'Ontario. Quel serait l'impact économique? Ben, on augmenterait la taille de l'économie canadienne de 70 milliards de dollars de PIB.
Attends, 70 milliards?
Selon la modélisation actuellement qui a été faite par un chercheur associé, là, puis honnêtement, cette étude-là qui a été publiée par l'IEDM, dans laquelle j'ai collaboré, je suis vraiment chanceux parce que c'est un gars qui est absolument extraordinaire. Là, c'est un professeur qui est l'expert, je vous dirais, numéro un au Canada, là, qui cadre les parlementaires, qui fait des modélisations économétriques incroyables avec l'impact économique si on abaissait les barrières au commerce interprovincial. Puis après du crunching assez long, je vous dirais, et assez complexe et fastidieux, on est arrivé au fait que ben s'il y avait plus de barrières, en fait, pour être précis, si le Québec retirait tous ses barrières, ce serait des gains de 70 milliards. Avec l'Ontario seulement, c'est 32 milliards.
Wow.
Mais ça reste très important comme gain économique. Puis ça, comment ça se traduit concrètement pour monsieur, madame, tout le monde, qui je trouvais la chose la plus importante? Ben, si vous avez une augmentation, c'est comment ça va s'articuler? Ça veut dire que les entreprises québécoises, qui ont un marché déjà aujourd'hui en canadien, mais qui a certaines barrières, si on abaisse les barrières, ce marché-là, il est plus accessible pour nos entreprises québécoises. Donc, on augmente le marché, ils vont pouvoir vendre davantage à d'autres clients, il y a plus de concurrence également au Québec, donc ils vont être incités à innover et à augmenter la qualité des produits. Et ce que concrètement, ce qui va se passer, c'est que il va y avoir une hausse de la productivité, mais aussi une hausse des salaires normalement qui s'accompagne de la hausse de la productivité. Puis vous comprendrez que si la meilleure entreprise du Québec commence à vendre partout, ben, elle va embaucher plus de machinerie, ben, ça fait en sorte que les produits coûteront un petit peu moins cher. C'est des petites baisses. On a surtout regardé au niveau de la Nouvelle-Écosse parce que c'était la province qui est allée de l'avant avec ce projet de loi-là. Puis ce qu'on voyait, c'est que il y aurait une baisse des prix d'1,2% si c'est ouvert avec tout le reste du pays. Donc, on comprend qu'il y a des bons impacts quand on abaisse les barrières au commerce interprovincial. Maintenant, il va falloir que les provinces comme le Québec bougent un petit peu pour s'assurer là, d'aller de l'avant.
Ben, OK. Gab, tu nous lances des chiffres super impressionnants. Ta logique est super bonne. Moi, je suis convaincu. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Tu as parlé que le Québec doit bouger. Pourquoi on bouge pas? Y a-t-il des signes qu'on va bouger? Il me semble que tout pointe vers, justement, enlever ces barrières-là puis y aller de l'avant avec une économie canadienne.
Il y a plusieurs choses là-dessus. La première des choses, restons optimistes. Le 2 juin, donc la semaine prochaine, il y a une rencontre entre les premiers ministres et provinciaux et le premier ministre canadien. Et ça fait quand même quelques temps que c'est prévu. Et à l'agenda, il y a la question du commerce interprovincial. Donc, on reste optimiste mais réaliste sur cette question-là. Maintenant, on va avoir le gouvernement du Québec, notamment Christopher Skeet, qui est le ministre délégué à l'économie et notamment au commerce interprovincial. Lui, ce qu'il explique, c'est que au Québec, ce qu'on veut, c'est harmoniser. Le problème, là, c'est qu'harmoniser toute la réglementation qui permettrait de faciliter le commerce interprovincial, moi, je pense qu'on a le temps de découvrir 3-4 exoplanètes, là. Vous comprenez, ça sera pas demain la veille, là. Donc, si on veut être sérieux, là, puis on se dit, là, faut avancer, on va reconnaître la réglementation, puis on va harmoniser en même temps. Tu sais, on peut marcher de la gomme en même temps, là.
Ouais, ben oui.
Donc, en ce sens, ça nous permettrait de vraiment faciliter très rapidement le commerce interprovincial. C'est-à-dire, c'est vrai qu'on pourrait harmoniser comme ça. Si la prochaine ronde d'élection, c'est d'autres gouvernements puis qu'ils se disent, moi, je veux pas avoir de d'accord qui fait en sorte que toute la réglementation est reconnue, puis là, on repart à zéro, il y aura déjà de l'harmonisation qui aura commencé. Donc, de faire ces deux approches-là serait intéressante. Maintenant, c'est pas ce qu'on entend. Puis, Jeff a dit quelque chose de très important quand il a dit la langue française. La langue française, elle doit être protégée au Québec. Je pense que personne, en tout cas, j'espère qu'il y a personne qui va dire le contraire, mais ses caractéristiques linguistiques ont été prises en considération dans la modélisation. Donc, c'est pas une question de dire, que le Québec va parler anglais. Donc ça, faut quand même aussi que le ministre Christopher Skeet, le ministre délégué, le comprenne que ça vaut la peine d'aller de l'avant avec cette approche-là. On peut faire les deux.
Tellement. Gab, au Québec, on est également une province de programmes sociaux. Et on a des problèmes dans le développement de nos infrastructures. On n'a qu'à penser à Montréal, à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Créer de la richesse comme ça, abaisser nos barrières interprovinciales, corrige-moi si je me trompe, mais ça nous permettrait justement d'investir davantage dans nos infrastructures et d'avoir davantage de moyens de se payer nos fameux programmes sociaux.
C'est sûr que ça l'aiderait parce que quand il y a une augmentation de la taille de l'économie, je pense qu'on l'a vraiment très bien vu, hein? 2020-2021. Qu'est-ce qui s'est passé en 2020-2021? Évidemment, c'est après la chute de la COVID, hein, avec l'économie. Et ce qu'on a vu, c'est une augmentation importante, là, une hausse importante de la taille de l'économie ensuite en 2020-2021. Et ça se voyait dans les budgets du gouvernement du Québec. C'est-à-dire qu'il y avait des projections de revenus et elles ont été explosées. Ça a été beaucoup plus important que ça à cause du dynamisme économique. Autrement dit, si vous augmentez la taille de votre économie parce que vous commercez plus, parce que les entreprises sont plus performantes, puis c'est un peu ce qu'on dit avec l'abaissement des barrières au commerce interprovincial, les gens font plus d'argent. Si les gens font plus d'argent, les gens payent plus d'impôts. Et les gens payent plus d'impôts, le gouvernement a plus d'argent, puis ils vont en mettre dans ses programmes sociaux. Donc, il y a une partie de moi qui se dit oui, absolument, JF, et une autre partie de moi qui dit coudonc, on peut-tu baisser les impôts un petit peu, ouais,
en effet.
Une fois, parce que, mais c'est sûr que c'est un choix de société. Au final, si toutes choses étant égales par ailleurs, effectivement, il devrait y avoir plus d'argent dans les coffres du gouvernement du Québec. Donc, c'est vrai, et je t'avoue, je suis content que tu l'aies dit, puis ça se peut que je te vole cette ligne-là parce que je l'avais pas mis de l'avant déjà, mais non, c'est intéressant de voir qu'effectivement, il pourrait y avoir un impact sur les comptes publics du Québec. Donc, c'est pas à négliger. Puis le gouvernement va clairement devoir l'intégrer.
Je te pose une question, Gab, qu'on a reçue par texto 88-971-1021. Est-ce que le taux de chômage super bas pourrait être une décision de ne pas ouvrir les barrières interprovinciales?
Je ne penserais pas. Parce que, puis c'est une bonne question, par contre. Puis merci pour l'auditeur qui l'a envoyé, parce que on parle beaucoup de ça. Hein. Quand on dit plus de concurrence, il y a peut-être des gens qui vont avoir de la difficulté. C'est vrai. Quand tu augmentes ta concurrence, tu pousses les entreprises à innover. Et c'est sûr que c'est pas 100% des entreprises au Québec, si vous ouvrez complètement le marché, qui vont très bien innover, qui vont très bien s'adapter à la concurrence. Donc, c'est une réalité. Mais en même temps, on va avoir des entreprises québécoises qui vont très, très bien innover. Donc, par la suite, si vous augmentez beaucoup les contrats, ça va prendre plus de main-d'œuvre. Puis, si tu utilises des termes plus économiques, il va y avoir une réallocation des ressources. Autrement dit, si une entreprise embauche 5-6 personnes, puis c'est plus difficile pour cette entreprise-là et qu'elle déclare faillite, par exemple, ben, t'as d'autres entreprises qui vont s'être très bien adaptées et qui vont être très productives. Donc, qui vont pouvoir embaucher ces gens-là. Alors, au net, vous allez voir une augmentation de la prospérité. Et je suis pas persuadé que ça va se traduire. En fait, je ne pense pas que ça va se traduire par une hausse du taux de chômage. Donc, dans ce contexte-là, je pense que ce n'est que positif. Okay. Est-ce que ça peut jouer sur la décision du gouvernement du Québec? Je suis tenté de dire que c'est beaucoup plus une question de vache sacrée que d'indicateurs macroéconomiques comme le taux de chômage qui va justifier cette décision-là.
Très, très cool. Merci pour la réponse à l'auditeur qui à cette question-là que l'auditeur nous a envoyée via le 88-971-1021. Gabriel Giguère, qui est analyste politique pour l'Institut économique de Montréal, tu le sais comme toujours, c'est un immense plaisir. Merci pour ton temps et bon Linkin Park au gym, mon chum.
Ben, c'est un plaisir. Puis la semaine prochaine, vendredi, je devrais être avec vous en personne, donc ça va être un plaisir.
C'est noté. La porte est toujours ouverte pour toi, cher ami.
Magnifique.
Salut,
Gab. Salut.
Toujours le fun, les discussions et l'analyse de Gabriel Giguère.
Hey, juste avec l'Ontario, c'est une trentaine de milliards de dollars. Mais c'est parce que l'Ontario, c'est à côté. C'est une frontière imaginaire pour prendre les paroles de Donald Trump.
C'est là.
Donc, c'est à faire. On n'a pas le choix. Puis je comprends là, le principe qu'on veut harmoniser puis qu'on veut pas se faire prendre dans le détour et tout ça, mais
Non, mais.
Tu sais, cette affaire, comme Gabriel dit, on peut marcher de la gomme en même temps. Et aussi, un point qu'on n'a pas touché, mais que Gabriel a effleuré quand il parlait de reconnaissance des formations, il parlait de dentiste, exemple, en Colombie-Britannique. On manque de médecins, on manque d'infirmières, on manque de plein de personnel dans le milieu de la santé. Voici une belle opportunité qu'on a de remettre notre système de santé un petit peu plus sur les rails.
Je vais répéter ce que j'ai mentionné tantôt. Faut arrêter de le dire, puis faut le faire.
Oui, exactement.
Ça a de l'air d'être une priorité, mais let's go.
Let's go.
Qu'on bouge.
Là-dessus, j'ai bien hâte de voir comment, justement, Mark Carney va être capable de faire valoir son leadership, parce que c'est une de ses priorités. Il l'a martelé en campagne électorale, il l'a inclus dans le discours du trône, il en a parlé hier à sa première période de questions à la Chambre des communes. Donc, c'est clair que le 2 juin, dans la rencontre avec les premiers ministres, on va travailler là-dessus.
Hier, à l'émission, Serge Bonin était ici en studio avec nous. C'est le chef de l'opposition à la ville de Lévis. C'est le chef de Repensons Lévis. C'est un candidat à la mairie. Ça a été une super belle discussion avec M. Bonin qui a piqué quelqu'un. Le maire de Lévis, Gilles Lehoulier. On lui parle après la pause. Restez là. Red.